Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur les nouvelles menaces proférées par Vladimir Poutine. Donc nous allons essayer d'y voir clair. Qu'est-ce qu'il faut prendre au sérieux? Qu'est-ce qui est moins immédiat? Avec Dominique Moisy. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique Moisy est conseiller spécial de l'Institut Montaigne et suit évidemment de très près toutes les grandes questions géostratégiques. On a eu une semaine de ce point de vue-là très chargée parce que Vladimir Poutine a évoqué la Lettonie en prenant prétexte de la population d'origine russe, russophone, en Lettonie, qui est vraie et nombreuse. Alors Vladimir Poutine nous dit 40%. C'est plutôt plus proche de 30% que de 40%, mais enfin c'est une logique qui évoque quand même quelque chose, puisque c'était déjà le cas sur les régions convoitées en Ukraine, où il faisait référence en effet aux russophones de la même façon. Il y a eu cela, et en même temps il y a des problèmes de plus en plus visibles en Ukraine, notamment, semble-t-il, entre le président Zelensky et le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Il y a en même temps aussi une angoisse qui monte en Ukraine devant l'attitude américaine, laquelle est soumise à une sorte de chantage ou de pression des républicains qui sont majoritaires à la Chambre des représentants et qui ne veulent pas accorder l'aide supplémentaire demandée par Joe Biden pour continuer d'armer l'Ukraine. Et donc, si les États-Unis venaient à défaillir dans ce domaine, on ne sait pas ce que deviendrait le sort des armes. Donc voilà, c'est un petit peu tout cela que nous allons évoquer avec vous, Dominique Moisy, aujourd'hui. Mais peut-être allons-nous commencer par Vladimir Poutine qui fait une grande tournée au Proche-Orient, est reçu en grande pompe par le prince d'Arabie Saoudite, MBS, qui ensuite reçoit à Moscou le président iranien, et donc un Poutine qui est à nouveau, si j'ose dire, sûr de lui et dominateur, Dominique Moisy.
Oui, je crois qu'il veut marquer ses avantages. Les derniers jours ont été bons pour lui, et on est pour le moment dans une épreuve de volonté politique. Il dit au monde occidental, écoutez, vous n'êtes pas en train de gagner en Ukraine. Les Ukrainiens se divisent entre eux, leur contre-offensive a échoué, et regardez ce qui se passe au Congrès des États-Unis, là encore, vous avez la division. Alors, je vous rappelle que j'ai des avantages spécifiques, et il porte le front, mais pour le moment strictement politique, sur la question lettonne. Il y a 30, un peu peut-être, en réalité, il y a beaucoup de Russes libéraux qui ont fui la Russie et se sont réfugiés en Lettonie. Donc il y a un peu plus de russophones depuis les débuts de la guerre en Ukraine qu'il n'y en avait avant. Alors je crois que il n'est pas en train de dire « je vais envahir la Lettonie ». Ce n'est pas dans son calcul. Il y a pour le moment une conscience très nette quand même que la Lettonie, ça fait partie de l'OTAN. Et il ne va pas porter son avantage militaire, entre guillemets, jusque-là. Mais il nous teste, il teste notre volonté, et là encore, il nous dit « mais est-ce que vous avez vraiment la volonté de suivre la partie de bras de fer avec moi ?»
Jean-Claude Casanova.
Oui, j'ai lu dans la presse anglaise d'ailleurs que il n'y a pas que Poutine, parce que j'ai lu une déclaration de Medvedev, qui a la réputation d'être un homme modéré en France, si vous voulez, qui est un ancien président, le président du Conseil de sécurité russe, et qui, à l'égard de la Pologne, a dit, je cite à peu près, « La Pologne devrait se souvenir des mésaventures qu'elle a connues dans son histoire. » Donc, est-ce qu'il fait allusion au partage de la Pologne Hitler-Staline, à Katyn, ou à l'arrêt de l'armée soviétique pour les massacrer les Polonais de Varsovie, de la révolte de Varsovie. C'est un texte extraordinairement menaçant et j'ai l'impression qu'il y a du... Est-ce que c'est lié à la période électorale aussi de Poutine? Est-ce qu'il y a un regain de mobilisation des masses par le nationalisme, si vous voulez?
Alors, je crois d'abord qu'il y a un point sur la personnalité même de Medvedev. Il était le modéré par rapport à Poutine quand il était le président et Poutine le premier ministre. Depuis qu'il n'est rien, il a versé dans l'extrémisme verbal le plus grand. Et je crois que ce à quoi il fait allusion concernant la Pologne, c'est en fait la fin du XVIIIe siècle. Oui,
le triple partage
de la Pologne, de 1772 à 1795. On m'a rapporté, quand j'enseignais au Collège d'Europe à Natolin, Varsovie, une conversation qui aurait eu lieu en 2010 entre deux premiers ministres, Poutine et Donald Tusk, et dans laquelle Poutine aurait dit à Tusk, écoutez, vous savez, l'Ukraine, ça n'existe pas, c'est totalement artificiel, partageons-la. Je vous donne toute la partie occidentale avec Lvov, Lviv, etc. Et je prends le reste. Et donc, c'était une sorte de provocation déjà. Et on est avant 2014, avant que la Russie ne s'empare de la Crimée, et bien avant, 12 ans avant le 24 février 2022.
Avant que nous n'allions plus loin, pardon, mais qu'est-ce que c'était que le triple partage dont vous parlez au XVIIIe siècle pour bien fixer les idées?
Et bien, par trois fois. Entre 1772 et 1795, l'Empire russe, Catherine II au départ, l'Empire autrichien et le Royaume de Prusse vont se partager progressivement la Pologne jusqu'à la disparition totale de la Pologne en 1795.
Et un partiel rétablissement par Napoléon, c'est pour ça que dans l'hymne polonais, Napoléon est cité.
Bien sûr. Il y a une chose dont on s'est aperçu, c'est que personne n'avait cru, c'est pas inutile de le rappeler, personne n'avait cru à l'offensive militaire russe contre l'Ukraine. Est-ce qu'on ne s'est pas non plus trompé sur la nature du conflit ouvert par Vladimir Poutine? C'est-à-dire qu'on l'a considéré comme regardant l'Ukraine, donc on défend l'Ukraine. Est-ce que dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est pas un conflit de plus vaste envergure qui concernerait l'axe, par exemple, Moscou-Pékin face à l'Occident, et donc avec une multitude d'agressions ou de micro-conflits, etc., de façon à créer cette espèce d'encerclement, pour le coup, de l'Occident par une Russie qui fédérerait autour d'elle ce que l'on appelle le Sud global, ou bien la visite du président iranien peut fournir une illustration aujourd'hui, Dominique Moisy. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la vision qu'a Poutine du conflit d'aujourd'hui?
Oui, mais Biden, il y a deux jours, s'est exprimé très clairement en disant « Au-delà de l'Ukraine, les ambitions russes sont beaucoup plus grandes. Si nous cédons à Kiev, nous nous préparons à des lendemains qui déchantent à Varsovie ou dans les républiques baltes. » Et je crois que ce que vous venez d'exprimer correspond à une réalité. Dans l'idée de Poutine, et il l'a répété depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, la plus grande catastrophe du XXe siècle, ce n'est pas Verdun, ce n'est pas Auschwitz, ce n'est pas Hiroshima, c'est la disparition de l'URSS. Et dans son esprit, il n'est pas nécessairement en train de reconstituer pièce par pièce l'URSS, mais de recréer un monde dans lequel il y a beaucoup plus de Russie, sans aller jusqu'à l'URSS d'hier. Donc, retrouver dans son esprit un équilibre des forces beaucoup plus juste entre le monde démocratique en pleine décadence et le monde des autoritaires en pleine progression.
Oui, Jean-Claude.
Si on raisonne strictement en termes nationaux, en considérant la Russie comme une entité, et qu'on prend le XXe siècle, c'est sûr que la défaite, c'est la défaite à l'égard des Japonais en 1905, et Brest-Litovsk, c'est-à-dire la défaite face à l'Allemagne, où pratiquement la Russie perd son empire. Et la grande victoire, le grand homme à ce moment-là, c'est Staline. C'est-à-dire, c'est l'homme qui rétablit l'Empire russe et au-delà, puisque d'une certaine façon, il supprime la Prusse orientale. C'est un succès prodigieux. C'est-à-dire, si on considère que la zone couverte par l'URSS, c'est une victoire de la Russie, une victoire historique de la Russie qui ne doit pas être mise en cause, on fait de Staline le point central de l'histoire russe. Et c'est très étrange de la part de Poutine, parce que est-ce que c'est un simple moyen de mobiliser les forces politiques pour assurer son pouvoir, parce qu'il n'est pas élu, si vous voulez. Il n'a pas de légitimité électorale, donc il veut une légitimité patriotique, fanatique, si vous voulez.
Dominique Moïsi.
Oui, je crois que Poutine lui-même fournit un début de réponse à la question de Jean-Claude Casanova, au lendemain de la tentative de coup d'État de Prigogine. Il se situe lui-même comme l'héritier des tsars. Et il condamne, dans ce grand discours, le léninisme et Lénine, qui a cédé tant de territoires russes à l'étranger. Et donc, on dit que dans le couloir qui mène au bureau de Poutine au Kremlin, il y a un énorme tableau d'un tsar, lequel Nicolas Ier, le plus conservateur des tsars, est celui qui a régné le plus longtemps.
Venons-en un petit peu peut-être à la situation de l'Ukraine, puisqu'elle mobilise aujourd'hui à travers l'inquiétude qu'elle exprime. Il y a évidemment les discours du président ukrainien, mais il y a aussi les possibles désaccords avec le chef d'état-major et la situation de l'Ukraine qui espère presque désespérément, si j'ose dire, une aide militaire supplémentaire de la part de l'Occident. Est-ce qu'on en est à ce point que l'Ukraine est guettée par une défaite militaire, Dominique Moïsi, si autant qu'on puisse le savoir, parce qu'en effet, les fronts ont l'air d'être à la fois stabilisés et gelés.
Je crois que le mot de défaite est sans doute excessif aujourd'hui. On peut penser, et beaucoup d'Américains le disent, que ne pas perdre pour l'Ukraine, c'est déjà gagné. C'est une résistance extraordinaire de David face à Goliath. Ce qui est clair, c'est que on voit, avec l'échec patent de la contre-offensive, l'arrivée de l'hiver, une lassitude, une fatigue dans l'armée ukrainienne et dans la société ukrainienne. Il y a eu, il y a quelques jours, une manifestation petite, mais quand même très significative, de femmes ukrainiennes qui disaient « Laissez nos fils, nos époux avoir un peu de répit. Ils sont sur le front depuis plusieurs mois. Ils n'en peuvent plus. Relevez-les par d'autres hommes. » Le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. C'est toute la différence entre une société et un État comme la Russie, pour qui la vie humaine ne compte pas, et qui peut se permettre d'avoir, on parle de 300 000 morts du côté russe, et la société ukrainienne, qui est beaucoup plus petite, il y a aujourd'hui trois fois plus de Russes qu'il n'y a d'Ukrainiens, et qui a quand même un rapport à la vie qui est infiniment plus occidentalisé. Et d'ailleurs, on prête à Poutine cette pensée. L'Ukraine s'est occidentalisée au cours des dernières années. Ce qui veut dire, elle s'est affaiblie. Elle est devenue beaucoup plus vulnérable.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur les questions géostratégiques. Nous évoquons à la fois la situation, les discours menaçants de Vladimir Poutine, la situation en Ukraine et l'éventuelle, enfin, la grande lassitude que décrivait Dominique Moïsi de la société ukrainienne elle-même. Ça rend d'autant plus dépendant l'Ukraine de l'aide occidentale. Or, l'aide occidentale, on s'aperçoit chaque jour qui passe davantage qu'elle était calibrée pour empêcher l'Ukraine de perdre, mais certainement pas pour permettre à l'Ukraine une victoire. Une victoire, c'est-à-dire la reconquête du territoire qui a été capté par Poutine, Jean-Claude.
Oui, en termes démographiques et en termes d'équipement militaire traditionnel, si on compare la Russie et l'Ukraine est en position défavorable. Donc il faut que l'Ukraine fasse ce qu'a toujours fait les États-Unis. Les États-Unis font la guerre en substituant du matériel moderne aux hommes, si vous voulez. C'est une démocratie. Aux États-Unis, on économise les hommes et on dépense du capital. Et donc, pour aider l'Ukraine, il faut que l'Ukraine dispose d'armes supérieures en qualité et en efficacité aux armes russes, en termes d'aviation, de missiles, etc. Je pense que les Américains l'ont compris. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un recul américain, parce que si on regarde les républicains, c'est McConnell, le leader au Sénat, il a dit la victoire en Ukraine est décisive pour l'avenir. Et au Congo, à la Chambre des représentants, c'est un peu la même chose. Alors, ils veulent négocier davantage de ressources pour la frontière, c'est-à-dire pour l'immigration, et séparer les ressources pour l'Ukraine et les ressources pour le Moyen-Orient. Mais Biden est très bon dans la négociation avec le Congrès. Je ne crois pas à la diminution. C'est vrai qu'il y a une, à l'intérieur du Parti démocrate, et il y a un phénomène de génération, on le voit dans les universités, etc. Il y a une opposition à la guerre, à l'aide à la guerre, etc. Mais je n'ai pas le sentiment, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, qui connaît bien les États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait un affaiblissement de la volonté américaine.
Ça semble pourtant clair, cet affaiblissement, quand on écoute un certain nombre de leaders républicains. Dominique Moïse, quelle est votre analyse?
Je crois qu'il faut distinguer d'abord entre républicains et démocrates, ensuite entre le dossier ukrainien et le dossier moyen-oriental. Si Trump devenait président des États-Unis après les élections de novembre 2024, on peut penser que c'est l'arme ultime pour Poutine. Trump a dit lui-même, je sais comment faire la paix, j'arrête en un jour mon soutien à l'Ukraine et c'est fini.
Mais il y a de nouveau un obligé de Poutine à la Maison-Blanche, donc...
Alors, oui, tout à fait. Alors, d'abord, on n'en est pas là. L'élection, la réélection de Trump et tout, sauf garantie. Mais il y a quand même... Là encore, j'utiliserai le mot de fatigue, le mot de lassitude. La guerre, les Ukrainiens ne sont pas en train de la gagner, même s'ils ne sont pas en train de la perdre. Et vous avez le début d'une interrogation. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser tant d'argent pour l'Ukraine alors qu'ils ne sont pas en train de gagner leur guerre? Et là, vous avez des républicains qui disent... En réalité, le dossier moyen-oriental est beaucoup plus important pour nous que le dossier ukrainien. Et là, il y a une polarisation encore plus grande au sein de la société américaine. Vous avez une partie des démocrates qui disent « mais on veut pas de cette guerre, on va pas soutenir la guerre au Moyen-Orient ». Israël, le gouvernement de Netanyahou, en est très largement responsable. Vous avez vu le débat dans les universités américaines, le mouvement woke qui s'exprime pleinement, et quand même des sondages qui montrent que au jour d'aujourd'hui, Trump serait réélu. Il y a des partis du camp démocrate qui feraient défaut Biden et qui s'expriment particulièrement sur le dossier moyen-oriental. Une partie de la communauté noire, une partie de la communauté hispanique, une partie des jeunes qui ne suivent pas Trump, Biden dans son soutien à Israël.
Cela dit, concrètement, les choses sont en panne. C'est-à-dire que comme la manœuvre de Biden consistait à mêler les deux aides, oui, c'est-à-dire l'aide à Israël et l'aide à l'Ukraine, de façon à faire passer justement l'aide à l'Ukraine, c'est ce schéma que refusent les républicains, en tout cas la majorité républicaine, et donc risque de voter l'aide à Israël sans voter l'aide à l'Ukraine.
Alors,
donc c'est
crois...
là que l'Ukraine serait en mauvaise situation.
Alors, je pense pour le moment, et je suis d'accord avec Jean-Claude Casanova, on est dans une manœuvre de chantage de la part des républicains au Congrès.
Dirigés par un Trumpiste notoire.
Tout à fait. Mais en réalité, je crois qu'ils disent à Biden, bon, finalement, on va accepter de voter, mais il faut que tu nous donnes quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sur la question des migrants. On veut plus de protection. Mais
ouais.
En même temps, on est au début d'un processus. Donc, je crois que Biden va gagner dans les semaines, les mois qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer à plus long terme si la situation apparaît vraiment gelée sur le front militaire? On n'en sait rien. Le temps ne joue pas nécessairement en faveur des Ukrainiens. Une guerre longue, pour des raisons démographiques, mais pour des raisons également politiques, et aux États-Unis et en Europe, risque de jouer en faveur des Russes.
Le moment décisif sera l'élection américaine, évidemment, puisqu'une élection de Trump rebat les cartes et crée des problèmes tout à fait nouveaux, crée une nouvelle séparation, d'ailleurs, des États-Unis et de l'Europe. Mais je reste malgré tout optimiste, parce que la défaite sur le plan ukrainien, une défaite marquée, si vous voulez, serait pour les États-Unis et pour l'Europe une profonde catastrophe politique. Et donc, logiquement, devant la perspective du désastre, si vous voulez, le ressaisissement et la conséquence normale, si vous voulez.
Je crois profondément à cela, et j'ajouterais que l'Ukraine continue de marquer des points en Crimée, en réalité. Ils ont un peu baissé le ton au Donbass, on dit même que Zelensky dit on va pas reconquérir le Donbass, mais l'enjeu symbolique de la Crimée, les Russes ne contrôlent plus les territoires qu'ils avaient conquis en 2014. Et donc ça, c'est un fait nouveau. Et on peut penser que les armes sophistiquées, les F-16, les missiles à longue portée de l'Occident, sont en train d'arriver en Ukraine. Et elles feront la différence à un moment donné. Donc c'est une épreuve de volonté. Il est essentiel pour nous de considérer qu'on ne peut pas, je reprends la formule de Jean-Claude Casanova, accepter une défaite ukrainienne. C'est notre défaite.
Voilà, nous allons terminer sur cette note de Dominique Moïsi. En même temps, il faut s'attendre aussi dans les opinions européennes et en France à une résurgence des pro-Poutine, d'une certaine façon, de ceux qui vont nous expliquer, comme c'est déjà le cas de certains anciens diplomates. Mais vous savez, le général de Gaulle considérait que on ne pouvait pas faire l'Europe contre la Russie, alors que l'Europe s'est faite contre la Russie. En tout cas, c'est l'enseignement principal de l'histoire. Mais c'est un autre sujet, on en parlera probablement un autre jour. Merci en tout cas, Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.